Père Céleste, c'est toujours un grand plaisir pour nous d'ouvrir ta parole. Mais en même temps, lorsque nous l'ouvrons, nous nous rendons compte de notre faiblesse, notre pauvreté. Nous sommes incapables de la lire et de la comprendre correctement. Alors, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour guider notre lecture, pour éclairer notre interprétation, pour nous donner des assises concrètes pour pouvoir mettre en pratique ta parole. Ô Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Éclaire-moi alors que je transmets ta parole et donne-moi en toute humilité de ne pas faire intervenir mes propres réflexions personnelles, mais plutôt celles que tu me conduis à présenter. Seigneur, aide aussi l'Assemblée tout entière à prendre chacun pour sa part la parole d'aujourd'hui pour lui, pour elle, et que cette parole guide, transforme, fasse un chemin dans sa vie. Et nous voulons que plus que toute autre chose à travers ta parole, c'est aussi toi que nous recherchons, toi que nous voulons apprendre à connaître d'une manière plus profonde encore, parce que il s'agit finalement dans la vie chrétienne de l'intimité avec toi, Seigneur. Nous voulons nous remettre en tes mains. Conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien, dernière partie, dernière trilogie d'un livre que je trouve particulièrement trash. Vous savez ce que c'est que quelque chose de trash? C'est quelque chose où c'est ça, il y a du sang, ça gicle dans tous les sens, c'est violent, c'est souvent inattendu, ça vous surprend. Ah, voilà. Et le livre de Juges me semble être un livre qui vous déstabilise dans tous les sens. Jusqu'ici, on avait donc, moi j'avais divisé le livre en trois parties, vous savez. Donc je partais du premier chapitre jusqu'au chapitre 8, je pense. C'est ça, avec Gédéon. Et puis ensuite, chapitre 8, je suis passé jusqu'au chapitre 16. Et là, on terminait avec Samson. Bon. Et puis, maintenant, nous allons prendre le chapitre 17 jusqu'au chapitre 21. Cette division n'est pas faite pour moi par hasard. C'est une division que j'ai faite après avoir lu l'ensemble du texte, parce que ça me semblait être trois choses qu'on pouvait relever qui étaient différentes. Je vous ai dit que la première partie, quand du premier au huitième chapitre, on parle plus, on explique plus d'où vient le problème du péché du peuple. On donne un peu les éléments historiques qui ont expliqué que on en est là avec la conquête de Canaan et toutes les erreurs qui ont été faites, etc. Et puis ensuite, comment le péché est rentré, comment le péché s'est aggravé, l'idolâtrie, etc. Donc, c'était important de voir ces aspects-là, tout en voyant déjà que dans la solution au problème du châtiment que Dieu mettait sur le peuple, il y avait un juge qui venait pour délivrer le peuple. Et nous avons vu deux juges remarquables dans cette première partie, Déborah d'un côté et Gédéon de l'autre. Et puis, la deuxième partie, c'est la partie donc du chapitre 8 au verset 16, où nous avons vu une autre dimension à les effets même de cette vie que le peuple a commencé à mener, et qui a entraîné que l'idolâtrie est devenue quelque chose de beaucoup plus grave dans la vie du peuple, au point que la manière dont le peuple réfléchit pour donner la gloire à Dieu est elle-même pervertie, en quelque sorte. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple, notamment, par exemple, de Gédéon qui a fait un vœu bizarre. Hein. Bon, on a parlé de Samson, qui était quand même un personnage assez drôle dans sa façon de mener en quelque sorte le combat pour le Seigneur. Et donc, nous avons vraiment vu sous ces angles-là, à savoir le fait que finalement, l'idolâtrie entraîne un type de comportement du peuple qui est, surtout ici, j'ai voulu montrer surtout dans les chefs des responsables, c'est-à-dire les juges, en pensant à Gédéon et en pensant à Samson. Donc, un type de comportement qui est quand même un comportement marqué par l'idolâtrie, un comportement des idolâtres. Et je disais, en terminant, qu'il y a moyen de... On peut croire qu'on sert Dieu spirituellement alors qu'on le fait d'une manière charnelle. C'était le cas de Samson qui a bien sûr été appelé par Dieu, a été mis à part à travers le Naziréat. Il a été mis à part pour servir Dieu, mais il a utilisé les moyens charnels. En allant épouser les Philistines, en allant coucher avec des prostituées, en cherchant la bagarre à ces gens-là, etc., etc. Cette relation avec Dalila, une relation bizarre, etc. Donc, il a utilisé les moyens plutôt charnels que spirituels. Maintenant, dans la troisième partie, je trouve que s'il y a une aggravation de la situation, la dernière partie, c'est très grave. C'est grave dans tous les sens. Alors, d'abord, on va faire comme ça. D'abord, je vais vous montrer qu'est-ce qui n'est plus là dans cette partie. Okay? Ensuite, je vais vous raconter quelques histoires pour montrer comment les faits sont graves désormais. On va essayer de donner du sens à ces histoires-là et puis quelques leçons de vie ou deux leçons de vie. Ça va? D'abord, qu'est-ce qui change ici du chapitre 18 au chapitre 21. Ce qui change, c'est qu'on ne parle plus des juges. Il n'y a plus de juges. Ici, on parle des peuples, des gens, des individus et des tribus. On ne parle plus de juges. Comme si, tout d'un coup, les choses n'étaient plus soumises à des autorités, comme si le peuple était en train de tirer son plan tout seul, abandonné à lui-même. Deuxième chose, dans cette partie, on n'entend plus Dieu dans cette façon qu'il avait de s'exprimer en tant que le conducteur d'un projet. C'est comme si tout d'un coup ici Dieu ne joue plus ce rôle-là. C'est comme si Dieu était... Il en avait marre. Voilà. Il avait marre, un peu comme, vous savez, un entraîneur c'est beaucoup plus visible au basketball, un entraîneur de basketball, quand son équipe ramasse une ratatine avec 100 points d'écart, vous savez quoi? Souvent, les entraîneurs, ils s'assoient, ils regardent le match se faire, ils n'interviennent plus, parce que, qu'est-ce que tu vas dire? 100 points d'écart, tu fais quoi? Sauf quand on est les Américains, là, on peut remonter les 100 points d'écart, mais en général, les autres, t'as 100 points, ben, tu subis, c'est fini, le match est mort, quoi. Et on sent ici, comme si Dieu, avait marre. On s'expliquera là-dessus. Est-ce que Dieu en avait marre? C'est une question, mais c'est l'impression que ce texte donne. Et on verra pourquoi. Troisième chose, c'est dans cette partie que se concentre le plus cette fameuse phrase « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce que bon lui semblait. » On va voir quelques exemples. 17:6. C'est pour ça que j'ai voulu que tu les alignes comme ça. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce que bon lui semblait. » Allez. Encore un autre verset sur ça, 18:1. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, etc. Bon, après c'est l'histoire des tribus d'Anite. Encore un autre, chapitre 19. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et puis, chapitre 21, donc la fin, 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Vous voyez, il le dit plusieurs fois. La même phrase revient plusieurs fois. C'est aussi pour souligner l'importance de la chose. C'est pour ça que j'avais dit le mot clé du livre des juges, c'est « En ce temps-là, il n'y avait point de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Alors, mais ici, par contre, et ça, c'est la beauté. Vous savez, autant le livre de Juges est un livre trash, assez visuellement, assez saisissant, autant sur le plan littéraire, c'est un livre très bien écrit. C'est bizarre de dire ça comme ça. C'est un livre bien écrit. C'est un peu comme si vous lisez, enfin, bon, les jeunes connaissent ça. C'est un peu comme si vous lisez un livre de Naruto. Je sais pas si vous connaissez Naruto, vous, non, hein? Les jeunes, ils connaissent bien ça. Hein? Ce sont des dessins animés japonais très, très, très violents, avec beaucoup de sang. Mais qui sont présentés de manière telle que tu accroches, en quelque sorte. Eh bien, c'est comme ça. Ce livre, il est littérairement bien écrit, bien présenté, bien structuré. Mais pourtant, les histoires qui sont dedans font un peu bizarre. Alors, quand je dis que sur le plan littéraire, c'est bien fait, c'est que vous allez constater que chaque mot-clé auquel on vient de faire allusion, en fait, introduit chaque fois une histoire, un fait, ou conclut un fait. Vous voyez ? Chaque fois, c'est chaque fois, on le met, une histoire. On le met, une histoire. Comme pour résumer, chaque fois en disant, cette histoire-là, elle a du sens parce que, en ce temps-là, il n'y avait pas droit. Et que chacun faisait ce qu'il voulait. Donc, vous, quand je vais vous raconter ces quatre histoires, vous allez toujours, un peu comme, vous savez, quand il y a des contes avec les petits enfants et qu'on leur apprend une phrase qu'ils doivent chaque fois répéter à la fin de l'histoire. Vous n'avez jamais eu ça, vous? Moi, quand j'étais gamin, c'était chouette, ça. On nous apprenait, on disait, voilà, tu dois dire, hein, bon, en Swahili, par exemple, Adisi Njo, tu dis Njo Adisi, enfin, un truc comme ça. Donc, tu rentres dans l'histoire avec chaque fois un petit mot clé qui se répète souvent. Eh ben, on va faire ça. Chaque fois, quand je termine l'histoire, vous savez que, en ce temps-là, voilà. OK? Bon, je vais pas vous le faire dire, hein, mais vous avez ça dans votre tête, enfin, dans votre esprit. Et puis, toute dernière chose que je voulais vous faire observer, dans ce texte ici, on ne parle plus d'ennemis. On ne parle plus d'Ammonites, on ne parle plus de Madianites, on ne parle plus d'Amalécites, on ne parle plus de Philistins, où il n'y a plus d'ennemis. Mais il y a encore des ennemis. Les ennemis, c'est les frères. C'est la guerre entre les frères. Il n'y a plus d'ennemis extérieurs, maintenant c'est les frères entre eux qui se tapent dessus, mais qui se tapent vraiment dessus, hein. C'est pas se taper un tout petit peu, c'est vraiment très 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 fort. Alors, quatre faits, quatre histoires, dont trois se recoupent, se rencontrent en quelque sorte. Alors, la première histoire, nous allons la lire quand même parce qu'il faut bien introduire quelque part. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mica. Il dit à sa mère, les 1100 sicles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 sicles d'argent et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal fondu, et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent, sa mère prit 200 sicles d'argent, elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On le plaça dans la maison de Mica. Ce Mica avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et de théraphim, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que vous suivez cette histoire? Vous comprenez cette histoire? Est-ce que, du point de vue du Dieu d'Israël, cette histoire est-elle normale? C'est pas du tout normal, hein. Il y a quelque chose qui tourne par rond ici, hein. Le gamin, il a quand même volé sa mère, hein. Alors, sa mère le félicite, hein. Et non seulement ça, sa mère elle va faire des objets taillés. pour le culte de Dieu. Et attends, il y a un commandement, hein, dans les 10 commandements. Le premier dit quoi? Non, tu ne feras pas ni une représentation, ni des choses d'en haut, ni des choses d'en bas. Tu ne feras pas de représentation. Il n'y aura aucun objet qui pourrait faire allusion à moi ou qu'on pourrait adorer. Mais lui, il en fait un. C'est quand même fabuleux. Hein? Et non seulement ça, il fait une maison qu'il appelle une maison de l'Éternel, c'est-à-dire un temple dans sa maison. Comme nous autres les Africains, on a parfois nos petits fétiches là dans un coin de la maison. Est-ce que vous voyez où est-ce que nous sommes avec ces histoires? On y reviendra. Ce Mika, il est important. Pourquoi? Ça, c'est la première histoire. Pourquoi il est important, Mika? Parce que ce Mika-là, eh bien, il va être au carrefour de deux autres histoires qui vont, que je vais vous raconter tout de suite. Remarque, Mika est un Éphraïmite. Donc, il est de la tribu d'Éphraïm. Donc, c'est un juif. Ok? C'est important. Parce que ce qu'il fait là, ce n'est pas du tout ce qu'un juif devrait faire. Bon. Deuxième histoire. Non, tu ne mets pas ça encore. Je vais d'abord raconter, puis je mettrai cette histoire après. Il y a un jeune lévite qui est de la tribu de Judas. Lévite, tribu de Judas. Ça sonne comment pour vous? Ça ne sonne pas juste, hein? Un Lévite, c'est un membre de la tribu de Lévi. Et c'est cette tribu qui a été consacrée pour pouvoir travailler dans le sacerdoce, dans la sacrificature, comme on l'appelle. Mais là, non. C'est un type de la tribu de Judas. Ok. Lui, il est donc un jeune Lévite. Vous savez quel est le travail de Lévite? Un Lévite, c'est un assistant des sacrificateurs. Son travail, c'est de mettre de l'ordre dans le temple, de lire la Bible, enfin le texte sacré, de mettre de l'ordre dedans, de recopier, d'expliquer le texte sacré. Et donc son travail, en fait, c'est d'assister en fait les sacrificateurs. Ok? Donc c'est quelqu'un qui est consacré par l'Éternel pour ce travail-là. Il est donc membre de la tribu de Lévi, qui est la tribu qui a été mise à part pour cette tâche-là. Mais ici, c'est un Lévite de la tribu de Judas. Ce jeune homme va quitter là où il était, c'est-à-dire le territoire de Judas, pour chercher un endroit pour s'installer. Et il va descendre, et il va partir, et il arrive sur la montagne d'Éphraïm, et là, il rencontre ce Mika. Et le Mika lui dit, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Et il lui dit, ben moi, je sers l'Éternel, etc., etc. Et donc, il lui dit, ok, tu viens chez moi, je vais commencer à te payer, et tu deviendras mon prêtre et mon père spirituel. C'est toi qui t'occuperas de ma maison. Et donc, le Lévite va se retrouver chez Mika comme son prêtre personnel. Ça va? Jusque-là, vous trouvez ça normal? Pas normal, pas du tout. Voilà, bon. Donc, voilà que le jeune Lévite est maintenant chez Mika. Il est installé là-bas. C'est tout à fait bizarre, mais enfin, voilà, il est installé là-bas. Et puis, pendant qu'il reste là-bas, voilà que troisième histoire, toujours avec en rencontre avec M. Mika. Eh bien, la tribu de Dan, vous savez que parmi les fils de Jacob, il y en avait un qui s'appelait Dan. Et ce Dan avait aussi sa tribu. Je ne sais pas si vous avez... quand vous lisez les histoires de la conquête, vous allez voir que la tribu de Dan, je pense que c'est dans les paroles de Déborah, la tribu de Dan, lorsqu'on lui a demandé d'aller faire la conquête, Dan a dit « Je me repose pour le moment, j'irai après moi. » Et donc eux, ils n'ont pas eu de territoire jusque-là. Et tout d'un coup, ils se sont réveillés en disant « Zut, mais nous, on n'a pas de territoire, nous. On va aller faire la conquête. » Eh bien, comment on va procéder? On procède comme du temps de Moïse. Qu'est-ce que Moïse avait fait pour la conquête? Il a envoyé 12 espions. Les 12 espions sont partis, ils ont regardé un peu partout, et puis ils sont revenus. Et malheureusement, sur les 12, il n'y en avait que 2 qui croyaient vraiment à la réussite de cette conquête, Caleb et Josué. Et le reste, ils avaient tellement peur de ces anaks, de ces géants qu'ils avaient vus là-bas. Eh bien, ici, les Danites, donc la tribu de Dan, vont envoyer 5 de leurs qui vont aller regarder sur le territoire qui est tout près de Sidon pour voir s'ils peuvent prendre ce territoire-là. Alors écoutez bien. Sur le chemin, ils passent par la montagne d'Ephraïm. Ils tombent sur qui ? Sur le prêtre. Et ils demandent au prêtre, toi tu es où ? Tu viens d'où ? Parce qu'apparemment, ils savaient se reconnaître d'où ils étaient. Donc ils ont vu que ce gars-là n'était pas de là. Il a dit, mais toi tu viens d'où ? Alors lui il a expliqué, voilà moi, je suis prêtre, engagé par Mika, et voilà, etc. Elle a dit, ah, Mika, tiens, c'est qui ce type-là ? Est-ce que tu peux nous conduire chez lui ? Et les voilà qui arrivent chez Mika, et qui voient le petit hôtel, la petite maison de l'Éternel de Mika. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils distraient les gens de la maison de Mika, ils ramassent tout de la maison de Mika. Et puis, ils disent au prêtre, toi, désormais, tu ne serviras plus un individu, mais tu serviras notre tribu. On y va. Je ne sais pas, le verset 22, qu'est-ce qui est... le texte suivant. Alors, ils sont partis, n'est-ce pas ? Ça, c'est la suite de l'histoire. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent pour suivre les fils de Dan. Ils appelèrent le fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mika, « Qu'as-tu ? Que signifie ce rassemblement ?» Il répondit, écoutez bien, écoutez la réponse de Dieu, de Mika. Et regardez ce qu'il dit, verset 24. Il répondit, « Mais Dieu que j'avais fait, la maison de l'Éternel, c'est ce qu'il avait voulu faire. » Et il dit quoi ?« Mais Dieu que j'avais fait. » Alors, mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il donc ? Comment pouvez-vous me dire « qu'as-tu ? » Les fils de Dan lui dirent « Ne fais pas à entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous et causeront ta perte et celle de ta maison. » Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ça ? Petit, Si tu essayes, tu vas mourir, hein. Donc calme-toi. Et la conséquence, c'est simple, hein. Le type, qu'est-ce qu'il fait? Verset 26. Et les fils de Dan continuèrent leur chemin. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Troisième histoire. Voilà la troisième histoire. La tribu de Dan qui va aller conquérir sa terre. Et attention! Ils vont le faire très très bien. Hein. Ils vont réussir leur conquête. Et ils vont massacrer la population qu'ils vont trouver là-bas. Et puis ils vont s'installer là-bas. Et ils vont installer leur divinité. Mais ce n'est pas Yahweh. Donc ça c'est la troisième histoire. Alors la dernière histoire, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment trash. C'est une histoire... Ah, que je ne vais pas vous lire, je vais juste essayer de vous raconter avec des mots. Un homme, cette fois-ci, un homme de la tribu de Manassé, qui va trouver une concubine. Une concubine, c'est-à-dire que ce n'est pas sa femme. Il a sa femme, mais il a trouvé une maîtresse qui est de la tribu de Judas, de Bethléem. Et c'est avec cette femme-là, il va convoler. Et sur le chemin, là où il se trouve, cette femme va le tromper avec quelqu'un d'autre. Et elle va s'enfuir pour aller à Bethléem chez son papa. Et la fille, le monsieur, sûrement fou d'amour pour sa femme, enfin sa concubine, va aller jusqu'à Bethléem pour chercher à la récupérer. Il va arriver à Bethléem, il va être très bien accueilli. Cette fois, on ne passe plus par chez Mika. Hein. Voilà, ça c'est au moins l'histoire qui, où il n'y a pas Mika dedans. Eh bien, il va arriver chez le... Enfin, appelons le beau-père, parce qu'après tout, bon, enfin, on ne sait pas dire autrement. Il va arriver chez le beau-père, et le beau-père va essayer de le retenir quelques jours, pendant un petit temps, 4 jours. Et il va lui dire, mais écoutez, reste ici, reste ici, reste ici. Finalement, le type va en avoir vraiment marre de rester toujours là chez son beau-père, à chaque jour se lever le matin, se préparer à partir, et puis le soir se coucher, il en a marre, il s'en va. Et puis il part, il arrive sur son chemin, il s'arrête sur le territoire des Benjamites. Benjamin, c'est aussi une tribu de Juda, or une tribu d'Israël. Eh bien, là-bas, donc, en fait, ils vont avancer et ils vont chercher où est-ce qu'ils peuvent aller s'arrêter pour la nuit. Et ce monsieur-là, vous savez que c'était aussi un Lévite, hein, ce monsieur-là. Ça, c'est aussi des bizarreries hein, dans la description. Un Lévite qui prend une concubine, enfin bref, c'est... Enfin, bon, ce n'est plus du tout les choses de Dieu, là. Bon, alors, donc, ce Lévite, donc, va dire à son serviteur, je ne veux pas qu'on aille dormir chez des étrangers. Je veux dormir chez mes frères, israélites comme moi. Donc, on va chercher des villes dominées par les juifs, les israéliens. Et donc, ils vont aller à Gibéa, qui est une ville des benjamites, donc les habitants de Benjamin. Ils arrivent là-bas, et ce qui se passe là-bas est surréaliste. Ils arrivent dans la ville, dans la place de la ville, il n'y a personne. Ils commencent à se poser des questions. Et puis il y a un vieillard qui passe et qui leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, nous cherchons un endroit pour dormir, on a tout ce qu'il nous faut. Il dit, ok, venez chez moi, je vais vous donner tout ce qu'il vous faut pour vous reposer. Ils arrivent là-bas, dit, sors-nous le gars là qui est entré. Ah, parce que nous voulons coucher avec lui. En Israël, c'est plus Sodome et Gomorre, hein? C'est Israël. Hein? Et donc, comme du temps de Lot, lorsque Lot avait accueilli les deux anges et qu'on est venu toquer à sa porte, qu'il a supplié en disant, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à ces gens, mais je vous donnerai mes filles qui sont vierges. Eh bien, la même chose. Il va dire, nous avons des gens ici, des filles, des femmes ici, je vous donne des femmes comme ça, et je sais pas comment ils font la transaction, mais finalement, c'est la concubine qui va être prise. Oh. Et donc, la concubine va être violée toute la nuit. Et le matin, on la retrouve complètement en lambeaux, et le grand monsieur va la prendre et partir avec. Vous croyez que l'histoire s'arrête là? Il le prend, il l'emmène jusque dans sa ville, là où il vit, et là-bas, il la tue et la coupe en morceaux, et renvoie chaque morceau de 12 tribus d'Israël. C'était sa manière de protester contre l'acte du viol qui a été commis. Et cette histoire va vraiment faire un tollé, un scandale dans tout Israël, et ça va déboucher sur quelque chose aussi de trash. Peut-être qu'on va lire l'extrait. Je me souviens plus très bien qu'est-ce qu'il y a dans cet extrait, là. 19, 20, 22, 23, là. C'est quoi encore que j'ai mis là? Ah oui, voilà. Ça, c'est l'histoire pour dire cette histoire. Si on ne vous donne pas, on ne vous donne pas l'extrait ici, vous pouvez penser que nous sommes à Sodome et Gomorre. Regardez. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici des hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Connaissions, vous savez ce que c'est. Hein? Le maître de la maison se présenta à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal. Je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. » Mais la suite de l'histoire, je vous ai déjà raconté ça. Conséquences. Deux conséquences à cette histoire. Donc, lorsque le type va couper sa femme et va l'envoyer comme ça dans les 12 tribus d'Israël. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde va réagir assez durement et tout le monde va unanimement condamner les Benjamites en leur disant, ce que vous avez fait là, ça ne se fait pas. Avoir pris cette fille, cette dame, l'avoir violée comme ça, être des pervers comme ça, des sodomites comme ça, ça ne se fait pas. Et vous croyez que c'était quoi la réponse des Benjamites? Vous pensez qu'ils ont dit, oh, on s'excuse, pardon, on est que des mauvais, nous. Vous croyez qu'ils ont fait ça? Non! Ils les ont envoyés promener en disant, on n'en a rien à foutre. Et donc, le reste de la population, le reste du peuple d'Israël s'est rassemblé militairement et ils ont fait la guerre. Et il y a eu un massacre. Un massacre. Ils ont pratiquement détruit les trois quarts de la tribu de Benjamin. Première conséquence grave. Deuxième conséquence grave, à cause du viol, ils ont promis, ils se sont jurés de ne jamais donner une fille d'une autre tribu aux Benjamites. Jamais. Mais lorsqu'ils se sont tapés dessus, et ils se sont tapés terriblement, ils sont morts, la Bible désigne le nombre des morts, alors ils sont tellement tapés dessus qu'après, ils ont été pris de remords. Ils s'en voulaient d'avoir été aussi durs, aussi méchants, aussi violents avec leurs frères. Et ils ont quand même souhaité que leurs frères continuent quand même leur tribu. Mais il n'y avait plus de femmes. Il n'y a plus de moyens, parce que on en a tué tellement. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés leur chercher des femmes ailleurs, dans des populations qui ne sont pas des populations des chrétiens. Ils les ont même poussés à aller même faire du rapt, d'aller voler des filles dans des tribus dans les environs là-bas qui faisaient leurs fêtes, etc. Alors, ça, c'était le premier point. Je voulais juste vous partager ces quatre histoires. Maintenant, on va donner du sens à tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Quel mot on va mettre devant toute cette histoire? Qu'est-ce que l'auteur, Samuel peut-être, en l'occurrence, a voulu faire apparaître à travers cette histoire? Il me semble que la situation est très très grave ici, parce que c'est un peuple qui a été instruit dans le désert pendant 40 ans. La loi a été donnée. Des principes ont été développés à partir de la loi. Lisez Lévitique. Lisez Nombre. Et puis, tout ça a été rappelé en Deutéronome, juste à l'entrée. Tout ça a été encore rappelé par Josué. Mais ceux qui vivent là est totalement en dehors de ça. Qu'est-ce qui s'est donc passé? S'il y a un mot à donner à tout ça, moi j'ai choisi un mot, j'appelle ça la confusion religieuse. Le peuple est devenu un peuple qui était devenu confus. Il ne savait plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, comment faire les choses dans le cas de Dieu ou pas. Le peuple était là. On vivait dans la confusion religieuse. On mélangeait les religions, les pratiques religieuses, les choses de Baal, les choses de Dieu, la notion d'autel, etc. La manière de se venger, parce que Dieu, combien de fois n'a-t-il pas interdit que les frères se tuent entre eux? Combien de fois Dieu n'a pas exigé que, il disait, vous dévouez à interdit les autres peuples, mais vous ne dévouez pas interdit vous entre vous, frères. Jamais! Jamais! Donc il y a une confusion religieuse. On sert Dieu, mais de la mauvaise manière. Des lévites pour une personne ou pour une tribu. Un lévite de la tribu de Judas, On vous a interdit son propre frère, sa propre une autre tribu. Et vous savez quoi? Ils consultaient Dieu à l'époque. Ils ont consulté Dieu plusieurs fois pour savoir s'ils doivent se battre contre leurs frères, les Danites, ou pas. Je vous ai dit, c'est ma façon de voir les choses, peut-être je peux me tromper, mais je vous ai dit, je pense qu'ils ont consulté un Dieu qui était complètement lassé avec leurs histoires. Vous savez, les Juifs disent toujours qu'il est possible de répudier sa femme, n'est-ce pas, avec une lettre. Et lorsqu'ils ont acculé Jésus là-dessus, Jésus a dit quoi? C'est à cause de la dureté de votre cœur. Parfois, Dieu cède à nos mauvais penchants, pas parce qu'il est content de le faire, mais parce que il se trouve dans l'obligation, dans une situation où on l'oblige à accepter ça. À cause de la dureté de votre cœur. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Le principe de Dieu est là et il est immuable. Mais parfois l'homme pousse parce qu'il cherche autre chose. Et parfois Dieu regarde et il te laisse aller laisse aller l'homme jusqu'à la pire des conséquences de ce à quoi il aspire profondément. Peut-être la réflexion ce serait alors comment en vient-on à une telle confusion? Comment en vient-on à se déclarer croyant, pratiquant de la foi de Yahweh, croyant en Yahweh, respectant la loi, mais vivant complètement, d'une manière complètement opposée à ça? Comment en vient-on à ça? On va pas chercher les réponses dans notre texte. On va juste reprendre la trame de l'histoire du livre des Juges. Comment on y arrive? Regardez. La première chose qu'ils ont commencé par faire, c'était quoi? La désobéissance. Première étape, c'est subtil. C'est tout simple. On désobéit et on commence à trouver des raisons de désobéir. Des raisons pour lesquelles on doit le faire. On doit désobéir. Et à ce moment-là, l'image de Dieu devient relatif. On regarde Dieu différemment. Première étape, c'est la désobéissance. La deuxième étape, c'est l'idolâtrie. Lorsque non seulement on désobéit, mais on commence à mettre autre chose à la place de Dieu, d'autres choses plus importantes que Dieu, d'autres choses plus sous lesquelles on se concentre plus que Dieu, plus de temps à consacrer à Dieu ou bien peu de temps à consacrer avec Dieu, alors on tombe tout doucement dans l'adultère, dans l'idolâtrie. L'idolâtrie a l'inconvénient qu'elle nous rend adultères. Un adultère, c'est quelqu'un qui est engagé avec, qui a des liens de fidélité avec quelqu'un, mais qui va être infidèle, c'est-à-dire trahir cette fidélité. Et l'idolâtrie nous pousse à être à la fois avec Dieu et en même temps avec autre chose. Et l'idolâtrie, à force d'être vécue dans une population, finit par rendre notre mentalité adultère. Notre mentalité devient idolâtre, c'est-à-dire que nous commençons à vivre avec des dieux, à côté de Dieu. Notre société est comme ça, mes amis. Une des choses qui est forte dans notre société, c'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Comment les publicitaires, les médias, les gens qui nous poussent à acheter, à consommer en quelque sorte, comment réussissent-ils à le faire? Ils exploitent cela par la méthode du culte de la personnalité. C'est-à-dire, on vous vante. On vous dit que vous êtes beau, vous êtes le meilleur, que vous êtes tellement grand, beau, fort, tout ce que vous voulez, que vous méritez ce produit-là. Que dans votre grandeur, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir ce produit-là. Parce que c'est un produit des grands, le produit des champions. Hein, monsieur propre. N'est-ce pas? Mais si je veux être propre de cette façon-là chez moi, parce que moi aussi je suis de la catégorie des forts, eh bien je vais acheter monsieur propre. C'est subtil, hein? Le culte à personnalité. Lorsque l'idolâtrie s'installe dans la société, dans le cœur, dans les mentalités des gens, alors on tombe dans la confusion. On ne sait plus qui est le vrai Dieu et qui est le faux Dieu. On n'exerce plus le discernement. Alors on vit n'importe comment. Et la conséquence de la confusion religieuse, c'est qu'on commence à faire des abominations. On commence à faire des infamies, des choses qu'on ne sait pas comment qualifier. Et Dieu, il laisse ça jusqu'à la destruction. Petite histoire. Vous savez que la tribu de Dan n'existe plus. La tribu de Benjamin n'existe plus. Toutes ces tribus qui se sont enfoncées dans l'idolâtrie, qu'est-ce qui s'est passé à la déportation? Nebuchadnezzar les a tous pris. Chup, chup. On a pris ceux de là-bas. Chup, chup. De sorte que ceux qu'on appelle les Samaritains au temps de Jésus, ben, les Juifs avaient raison de ne pas les considérer comme leurs frères, puisque c'était des mélanges avec les gens qui étaient déportés, des Assyriens, des Mèdes, des Perses, tous ces gens-là qui n'avaient plus le culte de Dieu. Et c'est une conséquence de la désobéissance et par la suite de la confusion. Je vais m'arrêter là. C'est un livre, si vous voulez le lire, lisez-le une fois calmement et notez tout ce que ça vous dit, mais ne le lisez pas qu'une seule fois. Parce que vous allez passer à côté de beaucoup de nuances, de subtilités. N'oubliez pas, certains considèrent que ce livre est un pamphlet. Vous savez, c'est quoi un pamphlet? C'est un livre qu'on écrit pour attaquer, mais malignement quelque chose, pour critiquer quelque chose malignement. Et parfois, on considère que ce livre est un pamphlet contre la royauté terrestre, notamment la royauté du roi Saül. Et quelque part, ça rejoint ces phrases, ce mot-clé qui dit « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi ». L'idée, c'est quoi? C'est que la royauté, la seule, c'est la royauté de Dieu. C'est celle-là qui fait que le peuple ne fera pas tout ce qu'il veut comme il veut, mais marchera dans la loi de l'Éternel. Les autres royautés sont susceptibles de créer du désordre. Et ça souligne l'importance de la royauté. Mais je ne veux pas y entrer. Il y a quelque chose de profondément spirituel que ce livre nous emmène à réfléchir. Si je reconnais Dieu comme roi, ça veut dire que je vis dans un royaume. Et si je vis dans un royaume, ça veut dire que je fais partie d'une société dans laquelle il y a des lois, il y a des règles. Je ne vis pas n'importe comment. Mes rapports avec le roi et mes rapports avec tous les collaborateurs du roi, ce sont des rapports qui sont bien organisés, bien légiférés, bien réglementés. Et il y a là quelque chose de spirituel que nous avons peut-être à réfléchir aussi dans notre façon de vivre le royaume de Dieu. Voilà. Donc, pour le reste, je vous laisse à cette lecture intéressante et nous allons nous arrêter là. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous pouvons toujours y tirer des enseignements. Merci pour le livre des juges. Merci pour tout ce qu'on peut aussi tirer comme enseignement, interpellation, réflexion. Aide-nous à être un peuple obéissant pour ne pas rentrer dans le cycle péché, châtiment, repentance, encore péché, etc. Mais plutôt de sortir de cela et de vivre notre liberté, celle que Christ est venu nous apporter. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber sous ce cycle-là, mais de vivre notre vie en termes de liberté. Seigneur, merci de nous aider à être obéissants, à discerner les pièges de l'idolâtrie dans nos vies et à ne pas, surtout pas, laisser la confusion religieuse venir nous miner dans notre rapport avec les autres et dans notre rapport avec toi. Merci, notre Dieu, de nous conduire ainsi dans le nom de Jésus. Amen.